Passons au domaine plus savant du vide parfait de Lietze. Alors, comme chacun sait, ce texte est peut-être considéré par certains spécialistes comme douteux, hein, oui. Comme assez tardif. Oui. Han Cheng, dans son ouvrage consacré à l'histoire de la pensée chinoise, est une de mes bibles, considère que c'est une espèce de faux, ou en tout cas de mélange, qui a été fait vers le 3e, 4e siècle ou 5e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire bien postérieurement à la grande période de Chuang Tzu, de Lao Tzu, de naissance du confucianisme. Oui. Voilà, vous ne vous posez pas cette question, vous le prenez en quelque sorte, quel. Ce qui vous intéresse, c'est le contenu de ce texte. Oui, et même s'il est composite, ça vous est un petit peu égal.
C'est pas ça, c'est que... Alors bon, je me suis un peu battue avec mon éditrice, mais en sciences humaines, je crois que je peux me battre avec beaucoup d'éditrices. C'est qu'elle ne voulait publier... Enfin, je trouvais ça absurde de publier des extraits. Mais pour des contraintes économiques, il fallait publier des extraits. En fait, le Yangzhu n'est pas du tout... c'est-à-dire le troisième chapitre dans ce livre, n'est pas du tout... contestable, c'est-à-dire que Yangzhu est un personnage qui a réellement existé. Et c'est pour ça qu'il y a une polémique autour de Lietze, puisqu'on ne sait pas si, en effet, les deux personnages sont oui ou non contemporains. Mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller décortiquer, c'est de jouer à la spécialiste du grain, et c'est d'enlever les couches et d'aller vraiment au cœur et de trouver un rythme. J'ai fait ça, en plus, je vais tout vous avouer. C'est une traduction que j'ai faite parce que... Je me trouvais profondément incapable d'écrire quoi que ce soit à ce moment-là parce que j'étais enceinte. Et quand moi enceinte, je suis d'une débilité profonde.
Vous n'avez qu'une expérience.
Mais dans le sens, la débilité, c'est aussi quelque part la faiblesse. Hein. Et c'est tout à fait ce qui arrive. On a des faiblesses quand on est enceinte, les faiblesses, on a même des tentations, je parle de tout ça. Et donc, j'ai passé, pas 9 mois à traduire ça, mais 2-3 mois dans un endroit idyllique, en plus, sur la terrasse d'une amie, face à la Loire. Et j'avais besoin, en fait, d'un fleuve, tout simplement, pour pouvoir comprendre un tout petit peu ce dont il ressortait de ce fameux philosophe, enfin, de ses écrits. Et il y a toutes ces métaphores, enfin, aquatiques... Moi, me passionne.
Oui, il y en a beaucoup aussi chez Chuang Tzu et Lao Tzu.
Mais il se trouvait que Lietze était un mal aimé, lui aussi, parce que donc il a été un peu saccagé dans tous les sens, pas respecté du tout. Et même si c'est que des extraits, donc 3 chapitres sur 7, j'ai fait du mieux que j'ai pu.
Ça, je m'en doute. Mais... Alors, ma question maintenant, c'est vos relations avec le taoïsme.
Comme si vous me demandiez mes relations avec le shintoïsme.
C'est pas la même chose. Vous avez traduit ce texte, vous avez consacré un ouvrage à Lao Tzu, qui est fondateur du taoïsme, alors que je n'ai rien lu de vous sur le shintoïsme. Donc
c'est la relation à la nature.
Dans votre cas.
Et aux éléments, aux éléments. Oui, c'est la contemplation. Mais moi, mon rêve, c'est de retraduire le Tao Te Ching.
Oui.
Donc, parce que j'ai des choses à dire là-dessus.
On dit qu'il est mal traduit.
Oui. Et on en a convenu avec Étienne, on avait correspondu là-dessus, qu'il était vraiment nécessaire de le retraduire. Il me soutenait dans ce projet-là. C'est un énorme travail. Moi, par exemple, tout ce qui m'intéresse par rapport au taoïsme, c'est leur rapport à la mélancolie.
Donc vous avez parlé de la nature, vous parlez maintenant de la mélancolie.
Et du problème 31 d'Aristote. L'homme de génie est forcément un mélancolique. Et le plus grand des génies est un poète. Donc voilà, c'est un vaste, vaste sujet. C'est mon grand sujet de prédilection, que je traîne depuis très, très longtemps. C'est à savoir comment créer dans la mélancolie, comment est-ce que, oui ou non, les hommes de pouvoir, c'est-à-dire les hommes de bouche, ceux qui utilisent les mots, aussi bien en parlant qu'en les communiquant par écrit, il y a un autre auteur que je voudrais traduire, je passe une annonce, avis aux éditeurs, qui est Chu Yuan, c'est le premier poète, considéré, c'est un peu le Homère chinois, qui est très très mal traduit. Il n'existe que 2 versions, une anglaise qui n'est pas trop mal, je l'avoue, mais en français il est très méconnu. C'est un poème qui fait plus de 400 vers. Que moi j'ai traduit par « Pour chasser ma mélancolie ». C'est une grosse étude à faire. Et c'est le premier poème autobiographique où un homme prend la parole. Et en fait, il annonce qu'il va se suicider par amour pour son roi. Et en plus, c'est un poème homosexuel. Et c'est totalement mélancolique. Alors là, au niveau taoïsme, je veux dire, il y a énormément de références de plantes. Enfin, on est au cœur de plein de problèmes qu'on pourrait davantage comprendre certains textes qu'on croit comprendre, c'est-à-dire le Zhuangzi, la métaphore du papillon, etc. C'est encore très, très vulgarisé, je trouve. Il y a encore des textes qui ne sont pas disponibles, qui nous permettraient justement de mieux lire ceux qui sont disponibles aujourd'hui.
Un élément central dans le taoïsme, c'est quand même ce vide ou ce wu-wei, ce non-agir. Et vous en parlez très bien dans Du vide parfait. Et vous ne l'avez pas cité comme quelque chose de primordial.
Parce que c'est dans mon comportement.
Le fait d'être dans une sorte de non-action qui est active, qui est quand même active sur l'ordre du monde. C'est dans votre tempérament ?
Oui, puisque je m'interdis rien comme forme d'expression. Mais en même temps, ça les annule quelque part toutes, puisque toutes me sont possibles, vous voyez ? Donc il y a quand même une... Et en même temps, c'est qu'une seule...
Oui, mais je n'ai pas l'impression que votre contact avec le monde passe par un apparent retrait. J'ai plutôt l'impression que vous êtes pour le moment dans la phase où vous allez quand même cueillir le fruit sur l'arbre et non pas attendre que le fruit tombe.
Enfin, dès que je peux, je vais sur une île. Hein.
Et vous le faites ?
J'essaye le plus souvent possible.
23 délices, l'album d'un amateur. Alors j'ai appris que vous aviez trouvé un manuscrit. Ça, c'est formidable, oui. Un manuscrit un peu coquin, d'ailleurs. Oui. Vous l'avez trouvé au Japon. Mais
voilà,
il était écrit en chinois ou en japonais ?
Non, pour ça, en fait, je me suis inspirée de vrais poèmes qui sont réels. Hein. Les poèmes, je les ai traduits. En fait, c'est une mode qui a eu une époque, donc au XVIe et XVIIe siècle. Ça se vendait sous le manteau. C'était des albums avec un poème sur la page de droite et une illustration sur la page de gauche. Les illustrations, les estampages à l'époque avaient fait beaucoup de progrès, etc. Et évidemment, censure, on arrache que les images et on continue à vendre... que les
le
poèmes.
Texte, oui.
Et il se trouve que ces images, il y a certains collectionneurs qui en ont récupéré après le sac du Palais d'été. Au début du siècle, c'était très, très... Enfin, on en trouvait pas mal dans les brocanteurs, etc. Maintenant, ça vaut très, très cher, ces images. Et donc, je me suis amusée, vu qu'il manquait les images, à les décrire d'une manière un peu cinématographique, comme si je donnais des indications de mise en scène. En disant, voilà, allez.
Oui, mais je ne crois pas que les poèmes soient authentiques, là.
Ah bon ? Mais je vous montrerai. Ah ben, écoute je vous montrerai l'original chinois, quand vous voulez.
Oui, je ne suis pas si sûre.
Je ne suis pas sinologue
comme vous, mais je ne le sens pas chinois.
Vous avez des amis sinologues, vous en inviterez d'autres et vous leur demanderez.
Bon, écoutez, de toutes les façons, la question n'est pas là.
Non.
Ça forme un bel ensemble, et disons un peu de quoi il s'agit. Il s'agit quand même de la rencontre des hommes et des femmes.
Des hommes et des femmes, et surtout de passer une journée, c'est-à-dire 23 heures. Moi, j'imaginais en fait un délice par heure, et que j'offrais au lecteur la liberté d'inventer celui qui se passait à minuit.
Ah.
Vous n'avez pas compris ça ?
Non, pas encore trouvé, je suis désolé. Et c'est assez concret.
Oui.
Assez coquin.
Oui.
Oui. Et en même temps, dans un langage très fleuri.
Oui.
Oui, et là, vous rejoignez effectivement la tradition de l'érotisme chinois, qui se dit toujours d'une manière très, très distante par rapport à l'objet en question, aux objets.
Oui, il y a une anecdote là-dessus. Au XVIIe siècle, il y avait beaucoup de... XVIIIe plutôt, beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi les Chinois... les hommes et les femmes rougissaient, se couvraient la bouche, avaient vraiment honte quand ils voyaient des peintures qui représentaient un homme en train de broyer de l'encre sur son encrier, puisque l'encre est dure et qu'il faut la broyer sur l'encrier, et la femme en train de broder. Et on se demandait et pourquoi c'était à ce point-là licencieux, quoi. Et en fait, en chinois, broyer de l'encre, ça veut dire faire l'amour pour un homme, et broder avec une aiguille, ça veut dire...
En fait, il y a plusieurs... Oui, bon.
Ce que ça veut dire.
Il y a plusieurs expressions pour dire la même chose.
Tout à fait, c'est très riche.
À la fois, le charme féminin peut être décrit de trois ou quatre manières, avec plusieurs idéogrammes. Même chose pour ce qui est chez l'homme, qui me semble moins charmant, mais enfin, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Gardez le vôtre, je garde le mien. Il est évident que l'érotisme court quand même pas mal, de vos livres.
Oui.
C'est donc une dimension de votre recherche.
La rencontre.
Dimension de la connaissance, ou c'est plutôt de l'ordre du ludique chez vous ?
C'est le moment de la rencontre. le moment où ça, où en fait le vœu d'amour se forme. C'est ça qui m'intéresse. C'est au moment où on y croit. Enfin, on y croit, mais alors qu'il n'y a aucune raison raisonnable d'y croire. C'est malgré vous. C'est comme un vœu. Enfin, ce qui m'intéresse dans l'amour, c'est le vœu. Voilà.
C'est pas la durée.
Non. C'est l'intensité du vœu.
Oui. D'un instant, alors.
Ça peut être un instant, un vœu.
Et tant pis s'il n'y a pas de suite, alors. C'est...
Ah, il faut jouer avec le... Voilà.
Oui, c'est un peu le moment de cristallisation.
Tout à fait.
Hein, ce moment qui vous fascine. Et puis après, vogue la galère.
Oui.
Oui, vous dites ça très joyeusement. Alors, nous allons prendre maintenant quelque chose de très sérieux. Tuileuse intacte et jade brisée. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure à propos d'une figure d'un jésuite. Donc, c'est le premier chapitre, d'ailleurs. Vous parlez effectivement de figure de jésuite, de ceux qui ont tout quitté, qui ont pris tous ces risques que vous avez évoqués, et notamment le père Viguer.
Oui,
oui.
Léon.
Léon, qui a été un des... Merci. Qui a été... je me souviens, mamie,
bah, oui.
Ça a été quand même le grand ponte pour traduire les premiers taoïstes, même si les spécialistes d'aujourd'hui remettent en question ces traductions. Mais en réalité, il a fait un travail considérable. Pour débroussailler l'univers taoïste.
C'était le premier.
Oui. Et son destin vous intéressait?
Ah, mais parce que je voulais lui rendre hommage, parce que si c'est vrai que je voyais partout CF Viguer, puis avec un irrespect total, CF Viguer, CF Viguer, CF Viguer. Je suis allée donc à Rome, à l'Instituto Esperimento, je ne sais pas quoi, Italiano, où là, ils ont énormément de choses de Viguer, je ne sais même pas pourquoi. Et j'ai constaté, mais ils en avaient des volumes, il a écrit, mais des... mais plus de 20, enfin des milliers de pages, avec un humour toujours. Moi, j'adore son humour. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent chez Léon Viguer, par exemple, sa sœur. Il a correspondu longtemps avec sa sœur et j'ai le projet, peut-être à un moment, de publier cette correspondance. Il se trouve que quand j'ai contacté les archives de Vanves, ils ont été très, très gentils. Ils m'ont laissé tout regarder. Enfin, et je trouvais ça injuste que les tant de sinologues disent CF Viguer sans jamais prendre la peine de même de citer le livre, etc. Et je voulais en savoir plus sur sa vie, sur vraiment quelle était cette personnalité.
Oui, alors ça ne donne qu'un texte assez petit, on a envie d'en savoir plus encore.
Ah oui, oui, mais faut... oui, j'ai pas le temps de tout faire.
Oui, ben, je vois avec tous les projets que vous avez. Oui. Alors dans un autre chapitre de ce livre qui est formé de différents éléments,
traités,
qui,
ouais.
Voilà, qui apparemment n'ont pas de lien entre eux, sauf la Chine, bien sûr, sauf la Chine. Vous nous apprenez, mais ça c'est effectivement une histoire connue, mais c'est important de la rappeler, que Confucius a eu trois maîtres. D'abord le duc de Cheu, je vous prononce à ma manière. Ensuite Lao Tse, enfin, d'après ce que disent les taoïstes.
Tout à fait.
Parce que les confucéens n'auront pas forcément être d'accord.
Oui.
Et puis alors, et là il y a un dialogue prodigieux que vous inventez ou qui est historique, j'en sais rien, vous allez me le dire, un enfant de 7 ans.
Oui.
Ouais. Et là, on est dans un univers extraordinaire entre le grand sage qui se fait enseigner par un enfant de 7 ans.
J'adore cette idée. Ouais. J'adore vraiment cette idée. J'adore l'âge de 7 ans pour, dans l'enfance et dans l'adolescence, c'est 12 ans. Enfin, ça m'évoque plein de choses.
Alors, en quoi cet enfant enseigne quelque chose à Confucius?
Ben, en fait, Confucius n'a... excusez-moi, mais il y a un moment que j'ai traduit ce truc-là. Donc, en fait, Confucius lui pose
vous
tout le temps des...
Oui, merci.
Confucius n'arrête pas de lui poser des questions impossibles et l'enfant répond à tout. Mmh. Et à la fin, est-ce que j'ai mis la version où, en fait, il le tue? Parce que s'il le tue, c'est que... Parce qu'il y a plusieurs versions, en fait. Il y a même une version vietnamienne de ce...
Il n'est pas vieux, ce livre, pourtant.
Non, mais en fait, il a été écrit... Enfin, c'est comme c'est des petits traités. Mmh. Oui, il le tue. En fait, non, c'est un texte, en fait, c'est plus, on va dire, comme une légende qui a eu plein de versions. Il y a des versions où l'enfant ne meurt pas, il y a plein de petites versions.
Quelle est la part de Lisa Bressner?
Là-dedans, non, j'ai choisi une version.
Simplement,
voilà,
donc vous faites simplement une traduction. Là.
Tout à fait.
C'est comme très souvent, vous mettez un peu des grenades à l'intérieur.
Alors, je mets des pastilles dans mes livres maintenant.
Oui, pour dire pas. C'est vrai, c'est faux, c'est
rouge,
vrai.
Rouge ou vert.
En fait, non, surtout faites pas ça.
Mais
parce
non.
Que le charme de la lecture, c'est de se demander justement à chaque fois si c'est vrai.
Non, ça c'est une vraie traduction. Oui. Et c'est juste une version que j'ai choisie entre plusieurs. Il en existe une dizaine.
Alors prenons le dernier chapitre qui est aussi très intéressant, ou alors plus philosophique.
Oui, sur l'être et le non-être.
Où vous nous montrez, enfin, quand on étudie un peu la culture chinoise, on le sait, que cette séparation qui est un des fondements de la pensée occidentale depuis les Grecs et qui nous poursuit encore aujourd'hui et qui nous joue parfois de vilains tours, cette séparation n'existe pas du tout. n'y a pas du tout d'antinomie, même il n'y a même pas d'antinomie scialtère, puisque le tout est de trouver justement la coïncidence et la rencontre, être, non-être, le manifester, le visible, et même agir et non-agir, puisque ce fameux « wu wei » qu'on traduit par « non-agir », c'est une manière quand même d'agir sur le monde.
Tout à fait.
Voilà. Donc là, vous avez fait un chapitre plus philosophique pour nous montrer qu'il faut remettre en question notre manière de penser pour aborder la pensée chinoise.
Ah oui, parce que enfin, souvent, enfin, les gens... Alors le yin et le yang, c'est quoi, etc. C'est d'une vulgarité insensée. C'est cette unité primordiale qui, moi, j'ai toujours pensé que j'avais ça. Quand ma grand-mère m'enseignait des choses, elle me dit « écoute tes tripes ». Et ben pour moi, le non-agir, le fameux « way », la fameuse unité, ça s'apparente un peu à ces tripes-là. Alors bon, c'est pas de la tripe de boucherie, mais c'est cette espèce de noyau qui est à la fois immobile et en même temps qui vous donne l'élan. Et c'est ça que j'essaye de comprendre. Et de comprendre pourquoi je l'ai dans mon ventre.